Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
10 août 2019, le milliardaire Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. Le milliardaire avait alors été arrêté et inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs et d'association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineurs.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En novembre 2018, une enquête journalistique dévoile des rumeurs persistantes sur l'existence d'un énorme réseau de trafic sexuel de mineurs géré par le multimillionnaire Jeffrey Epstein.
Le 6 juillet 2019, Epstein est arrêté à son retour de Paris et on l'accuse formellement de trafic sexuel.
Le 10 août 2019 au matin, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York. Il se serait suicidé
malgré une surveillance accrue.
Avec sa mort, il prive ses victimes présumées d'un procès qui allait exposer au grand jour de nombreuses personnalités publiques. La mort d'Epstein est-elle réellement un suicide? Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce que c'est le premier épisode officiel de notre saison 6.
Ah oui, je suis excité. Là.
Oui, et puis en plus, Jeffrey Epstein, c'est un cas que vous nous avez demandé lorsqu'on avait fait un sondage l'année dernière. Donc on était très... c'était déjà sur notre liste.
Oui.
Puis on avait hâte d'en parler. C'est toute une histoire, ça, Jeffrey Epstein, ce multimillionnaire qui s'est fait prendre. En fait, on l'a accusé de trafic sexuel sur des mineurs, un peu dans la foulée de MeToo. On s'est rendu compte que ce gars-là, pendant des années, a mené une double vie, puis qu'il menait justement un réseau de trafic sexuel quand même important.
Oui, parce qu'en 2008, il avait été arrêté, Epstein, pour justement sollicitation d'une prostituée mineure, malgré qu'il y avait eu une trentaine de victimes qui avaient porté plainte, mais malgré ça, il avait fait une petite peine de prison, on va vous en reparler tout à l'heure, et il a été libéré, puis il a toujours un peu nié, nié tout ça. Et par la suite, il y a eu une enquête journalistique, comme on vous disait dans l'intro, qui a un peu remis cette accusation-là au grand jour, parce que la journaliste, elle a réussi à ramasser énormément de témoignages de jeunes filles qui ont été victimes, et ça a mis de la pression sur les autorités américaines pour enfin arrêter Jeffrey Epstein. Vous allez voir, Jeffrey Epstein, c'est un multimillionnaire, mais qui a des contacts avec la haute société.
Oui.
Il vivait sur une île vierge qui appartient aux États-Unis, mais qui fait pas partie des États-Unis. Et qu'on appelait cette île-là, on l'appelait l'île des pédophiles ou l'île à orgies, où justement, beaucoup de victimes se sont rendues là en jet privé, où énormément de gens importants de la politique aussi, dont le prince Andrew, qui est le fils de la reine Elizabeth, Bill Clinton, etc. Donc, beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans. Vous allez voir, même Epstein, il y avait des brelons dans des fondations scientifiques, il finançait le MIT, mais il y avait tout un autre côté de lui qui gérait un réseau complet de prostitution de mineurs pour lui, mais pour aussi ses amis, entre guillemets.
Oui, c'est assez troublant. C'est digne d'un film, un peu. C'est plus vrai que nature, cette histoire-là. Mm. C'est vraiment troublant. Il y a des cas de disparition autour de ça, des cas de mystères non résolus, sans parler aussi de sa propre mort qui a fait scandale en 2019 et qui a été la proie des conspirationnistes, en fait. Est-ce qu'il s'est suicidé pour vrai? Est-ce qu'il s'est fait assassiner, en fait? C'est devenu même un mème Internet. Donc, c'est un gros dossier pour Distorsion ce soir. On avait bien hâte d'en parler. À part ça, on voulait remercier en fait tous nos abonnés Patreon qui ont rejoint notre page au patreon.com/distorsion parce qu'on présente deux forfaits en fait qui donnent accès à du contenu en avance. Donc le forfait distordu à $2 par mois vous permet d'avoir accès à entre autres cet épisode-là avant qu'il sorte officiellement et ainsi que d'autres trucs, là, des rabais sur la boutique, serveur Discord privé, des choses comme ça. Et le forfait à $7, oui monsieur, lui permet d'avoir des trucs en avance, donc des morceaux de contenu, parfois c'est des after-shows, des réflexions, des segments que moi et Seb, on enregistre spécialement pour les abonnés, oui monsieur. Donc à $7 par mois, on a un petit peu plus de contenu exclusif. Ouais. Donc on voulait remercier nos abonnés qui se sont joints à notre page très très rapidement, c'est très gentil.
Oui, l'adresse c'est patreon.com/distorsion si vous voulez vous joindre à ces membres-là.
Et on commence cette saison avec quelle bière, mon cher Seb?
On boit aujourd'hui la Seal Cove, qui veut dire la crique au phoque. C'est une IPA sûre, qui est quand même légère, là, 3,6% d'alcool, d'une de nos microbrasseries préférées, la Cap Gaspé.
Oui.
Et c'est supposément un hommage à un endroit en Gaspésie, à Gaspé, pardon, où les loups de mer, les phoques, se réfugient sur des bancs. Donc, c'est une bière aux canneberges et aux baies d'Aronia. Honnêtement, je connais pas les baies d'Aronia. Et c'est des notes de saveur de baie, comme je vous disais, de citron et de pamplemousse. Elle est excellente.
Oh yes! Et cette bière-là nous est offerte par Laurence, qui nous l'a offert via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez faire comme Laurence et encourager le show, vous pouvez vous rendre sur notre site web, cliquer sur l'onglet « Tournée de bière » et même nous suggérer une bière de votre région. Donc, merci à toi, Laurence.
Oui, merci. On a aussi un shout-out pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Manette 360 de France, donc j'imagine que c'est un ou une gamer. Elle nous dit, la personne, une véritable drogue. Depuis que j'ai découvert Distorsion après une grosse consommation du Bureau des Mystères, Charlotte au Bureau des Mystères, je ne peux plus m'en passer. C'est ma petite dose de frissons et intrigue du matin. Merci à vous.
Eh bien, merci à toi, Manette 360. Aussi, évidemment, on a des remerciements Patreon à faire, comme c'est devenu la tradition maintenant. Allons-y, Seb, je te laisse aller.
On voudrait remercier Caroline avec un K. Merci beaucoup.
Kérodren, merci à toi aussi. C'est grâce à toi qu'on fait ce show.
Merci à Tristan M.
On veut donner un gros shout-out à Christophe W aussi. Merci à toi.
Merci à Annie-Pierre avec un Y. T'envoie de l'amour.
Shout-out aussi à Marie-Ève. T'as un très beau nom.
Merci René-Claude.
On va aussi donner un shout-out à un abonné un peu énigmatique du nom de Bottine. Merci à toi.
Dans les abonnés énigmatiques, on a aussi Stig Québec. Merci.
Et pour finir, un gros shout-out à Jessica. Merci de ton support.
Merci à tous les Patreons.
Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans ce nouvel épisode de notre saison 6?
Oui. Ah! Mais juste avant, nous devons dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle, c'est celle qui enseigne aux adultes. Et actuellement, les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, mais aussi pour les 30 autres programmes qui sont offerts.
Absolument. Le certificat d'enquête et renseignement, c'est un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne passionnée d'enquête qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z.
Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple le certificat en criminologie, ou même réorienter votre carrière.
Est-ce que ce serait une bonne formation pour, mettons, deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes, Seb?
Oh que oui, mon cher Émile, même que j'y pense pas mal à tous les jours de ces temps-ci.
Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement ou à tous les autres programmes de la Faculté d'éducation permanente au fep.umontréal.ca, le fep.umontréal.ca.
La FEP.
Et là-dessus, je pense qu'on a assez dit de choses, Seb. On est prêt à se plonger dans le dossier compliqué de Jeffrey Epstein?
Oui, monsieur.
C'est parti. Oh, yeah.
Nous sommes à Manhattan, à New York, le 10 août 2019. Il est 6h30 du matin et les gardiens de la prison du Metropolitan Correctional Center font leur ronde habituelle de surveillance. Lorsqu'ils arrivent devant la cellule du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, emprisonné en attente de son procès pour, entre autres, trafic sexuel de jeunes filles mineures, il remarque qu'il est au sol, inconscient. Les gardiens appellent immédiatement les services d'urgence. Epstein est alors transporté immédiatement à l'hôpital. Des manœuvres de réanimation sont effectuées, mais en vain. Une fois arrivé à l'hôpital, il est déclaré mort. À première vue, selon les autorités, il semblerait d'un suicide. De toute façon, comment ça peut être autrement? Il est enfermé et tout seul en prison. J'ai de la misère à trouver une autre théorie ou hypothèse que le suicide.
Ouais, hein?
Drôle de coïncidence, mais la veille de sa mort, le 9 août, une cour d'appel fédérale avait décelé environ 2000 pages de documents, y compris des allégations graphiques jusqu'à des milliers de preuves numériques, photos et vidéos qui impliquaient Epstein. Les documents font partie d'un procès en diffamation intenté par une présumée victime de Epstein contre le prince Andrew, dont on vous parlera tout à l'heure. Jeffrey Epstein avait 66 ans. Ce qui est étrange de la situation, c'est qu'il était justement sous une surveillance plus étroite de la part des gardiens de prison, car il n'en était pas à sa première tentative de suicide en prison. Le 24 juillet 2019, un peu plus de deux semaines avant sa mort, il avait aussi été retrouvé semi-conscient avec des marques sur le cou dans sa cellule.
Donc il voulait en finir décidément.
Effectivement. Étrangement, dans le rapport à propos de sa première tentative de suicide, il n'est pas clairement établi s'il avait été blessé par quelqu'un d'autre ou s'il avait tenté de se faire du mal lui-même. Alors, pourquoi s'il était sous étroite surveillance, les gardiens ne l'ont pas vu avant 6h30 le matin? Ont-ils oublié de le surveiller durant la nuit? Assez étrange.
En effet, Epstein était sous la mire des autorités américaines car, au cours des 15 dernières années, plusieurs jeunes filles ont porté plainte pour prostitution, menaces physiques et même pour avoir été contraintes à rester dans sa maison de Floride et satisfaire ses amis. Mais ça n'allait jamais plus loin. Il n'y avait jamais vraiment de condamnation en lien avec ça. Epstein était notoirement amateur de très jeunes femmes. C'est quelque chose qui était connu dans les lieux, là. Qu'il rémunérait pour leur prodiguer, selon ses dires, des massages thérapeutiques.
Ouais.
Finalement, il a été arrêté et condamné en 2008 et entre 2008 et 2009, il a été emprisonné durant 13 mois sur une peine maximale de 18 mois dans une affaire de prostitution impliquant une mineure. Il y avait pourtant 36 jeunes filles identifiées et il s'est vu tout de même là, inscrit sur la liste américaine des délinquants sexuels et a dû verser beaucoup d'argent à sa victime. Mais pourquoi il s'en est sorti aussi facilement? A-t-il acheté les procureurs? Parce qu'on sait, quand on est à ces niveaux-là de vie financière, un peu tout est permis.
Exactement, et tout est possible.
Il y a eu éventuellement des révélations de la part du Miami Herald. Il faut savoir que Jeffrey Epstein faisait déjà abondamment la manchette depuis plusieurs mois avant son arrestation. Car le 28 novembre 2018, la journaliste Julie K. Brown du Miami Herald a révélé qu'en 2008, le ministre du Travail de Donald Trump, Alexander Acosta, était procureur en Floride sur le premier procès d'Epstein et qu'il avait conclu un accord avec les avocats de celui-ci pour ne retenir que seulement deux chefs d'accusation alors que l'enquête fédérale avait identifié 36 victimes mineures.
Ouais, c'est fou, hein, ça.
Ah ouais. Étrange que la peine soit si petite pour autant de présumées victimes et que c'est ce qu'elle questionne finalement cette Julie K. Brown du Miami Herald. Elle-même a trouvé une soixantaine de femmes qui disent avoir été maltraitées de 2001 à 2006 et elle a été en mesure d'identifier 20 autres victimes présumées. Donc c'est un grand nombre.
Oui, c'est beaucoup de monde, là.
Ça me rappelle un peu R. Kelly, cette
oui.
histoire-là.
Oui, oui.
Peut-être que tout à l'heure, on fera le parallèle, mm-hmm. mais lui aussi, c'était pareil. Hein? Quelqu'un qui a beaucoup de moyens financiers,
ouais.
qui fait beaucoup de victimes, mais que c'est très difficile de porter des accusations mm-hmm. formelles.
Oui, ils réussissent toujours à se glisser entre les doigts comme de loup.
Oui. Grâce à l'enquête de la journaliste, le 6 février 2019, le Bureau de la responsabilité professionnelle du ministère américain de la Justice ouvre une enquête, question de savoir si les procureurs américains qui ont condamné Epstein ont commis une faute professionnelle. Epstein a le bras long, on le sait, et des contacts partout, et surtout beaucoup d'argent. Du même coup, deux semaines plus tard, le 21 février, Jennifer Araoz, une des présumées victimes, a déclaré aux médias qu'elle prévoyait poursuivre Epstein, qu'il l'aurait violée à l'âge de 15 ans. L'étau se resserre de plus en plus sur Jeffrey Epstein. Suite à l'enquête du ministère de la Justice, l'accord de plaidoyer d'Epstein en 2008 était finalement illégal parce que certaines de ses victimes n'ont pas été consultées lors de la condamnation. Et ça, là, c'est une violation de la loi sur les droits des victimes d'actes criminels. Chose qu'on ignorait,
oui.
nous, en enquêtant là-dessus.
Ben oui, exactement.
Ça n'explique pas tout là, de la faible peine, mais au moins, ça invalide l'accord de plaidoyer.
Ouais, c'est ça que je trouve un peu triste de ça, c'est super que le ministère de la Justice ont invalidé le plaidoyer, mais c'est pour une erreur, pas une erreur factuelle, mais presque, là, c'est une erreur administrative d'une
ouais.
certaine manière, mais au moins ça l'a tassé ça de côté, mais je trouve pas ça juste non plus malgré tout que ça soit juste à cause de ça que le procès est invalidé.
Tout ça met énormément de pression sur les autorités américaines pour arrêter Epstein.
Le 6 juillet 2019, il est arrêté par le FBI et la police new-yorkaise à la descente de son jet privé à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, lorsqu'il rentrait de Paris. Epstein possédait aussi un pied-à-terre à Paris. Son immense maison de New York a été immédiatement perquisitionnée après son arrestation. Même les îles aussi qu'il possède l'ont été un peu plus tard. Suite aux nombreuses preuves amassées, il est alors inculpé de trafic sexuel de mineurs et de complot pour trafic sexuel, concernant plusieurs dizaines de mineurs sur des événements qui se sont déroulés entre 2002 et 2005. C'est presque il y a 15 ans. Le 8 juillet, deux jours après son emprisonnement, il plaide non coupable aux accusations qui pèsent contre lui et qui peuvent entraîner une peine maximale de 45 ans de prison. Il se voit de plus refuser par le juge une remise en liberté sous caution, pour des raisons de danger, bien sûr, pour la communauté. Évidemment, le juge a également déclaré qu'Epstein pouvait présenter un risque de fuite. On s'entend, avec le nombre de maisons qu'il y a partout dans le monde et son fameux jet privé, il est quand même assez à risque. Selon les documents judiciaires, Epstein a abusé d'un vaste réseau de jeunes filles chez lui, à Miami, New York, Paris et sur ces deux îles et à d'autres endroits dans le monde. Certaines de ses victimes auraient été également payées pour en recruter d'autres. En plaidant non coupable, Epstein s'exposait à un procès où plusieurs preuves allaient être divulguées au grand jour sur son réseau de prostitution. Étant donné qu'il semblait avoir des liens étroits avec de nombreuses personnalités publiques et politiques, telles que Bill Clinton, Donald Trump, Kevin Spacey, le prince Andrew, comme je vous disais, qui est le fils de la reine Elizabeth II, et que plusieurs rumeurs circulaient sur le fait que plusieurs orgies avec des mineurs s'étaient déroulées sur son île privée, entre autres, disons qu'on imagine bien que plusieurs personnes ne souhaitent pas la tenue d'un procès et que la preuve soit dévoilée, exposée au grand public, hein, parce que les gens dans ce réseau-là, veut pas, ils font partie de la preuve aussi. Puis on va vous en reparler, mais il y avait un genre de black book Epstein où ce que tous ces noms-là, ben pas nécessairement tous les noms que je vous ai nommés, mais plusieurs noms de personnalités publiques y figuraient.
Oui, c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore, tout ça.
Oui, exact. Le 11 juillet 2019, quelques jours après son arrestation, le secrétaire du travail de l'administration Trump, Acosta, qu'on vous a parlé tout à l'heure, lui est ressorti à cause du scandale de la journaliste du Miami Herald pour défendre la bonne gestion du dossier de l'époque de 2008. Lui, selon lui, il n'y a rien à se reprocher, ils ont tout fait pour faire condamner Epstein. Par contre, étrangement, le lendemain de son annonce, de sa défense, il a démissionné de son poste comme secrétaire du travail pour l'administration Trump. Donc, c'est malgré le fait que ce soit défendu, j'ai l'impression que De un, Trump, il l'aime pas, Epstein. Mm-hmm. Fait que d'après moi, il a dû le tasser parce que déjà que Trump a de la misère avec sa réputation, j'ose croire que ça aide pas tout ça.
Non.
Malheureusement, la mort de Epstein a mis brutalement fin aux poursuites. Hein, donc, il n'y aura plus de procès qui visait pour le fait qu'il exploitait sexuellement des jeunes filles mineures. Ça, ce que ça fait, c'est que ça prive les victimes présumées d'un procès qui allait justement être assez scandaleux. Là. Mais ça évite aussi de dévoiler beaucoup d'informations sensibles qui seraient sorties dans les médias, comme on vous parlait. Sa mort est donc assez suspecte. Hein? C'est un peu bizarre, là. Peut-être qu'il voulait pas affronter ça, mais il y a quelque chose d'étrange. Même les avocats de Epstein avaient immédiatement mis un doute des conclusions du suicide et ont annoncé le lancement d'une enquête indépendante et complète sur les causes du décès de Epstein. De plus, son frère, Mark, qui est le seul proche parent connu, doute lui aussi qu'il se soit suicidé et a embauché un expert pour assister à l'autopsie et selon les conclusions, il aurait bel et bien été assassiné. Mais on y reviendra. Avant d'aller un peu plus loin, Émile, c'est qui Jeffrey Epstein?
Oui, parce que là, on a commencé en vous parlant de sa mort. On a un peu commencé par la fin. Mais vous allez voir, on va remonter le temps tranquillement pour voir qu'est-ce qui a amené ces événements-là à se produire. Jeffrey Edward Epstein est né dans une famille juive de classe moyenne le 20 janvier 1953 à Brooklyn, à New York. Son père était un col bleu de la ville. Epstein a étudié au Courant Institute of Mathematical Sciences à l'Université de New York, mais n'a jamais complété son cursus. Il a enseigné l'analyse mathématique et la physique dans une école de Manhattan où il a eu parmi ses élèves le fils du président de l'entreprise de placement, le Berenstains, Alan Greenberg. C'est à partir de ce moment qu'il a été intégré dans le milieu des placements financiers. Il s'entendait très bien avec Alan. En 1976, il entame une carrière de trader chez Berenstains au sein de la division consacrée aux produits spéciaux et aux conseils de stratégie fiscale. Je dirais plutôt évasion fiscale.
Oui.
Pour les clients les plus riches de la compagnie. Et en 1980, il devient l'un des associés de Berenstains pour ensuite fonder sa propre entreprise de gestion financière J. Epstein & Co. en 1982. Il se voit alors confier la gestion d'actifs de clients pour l'équivalent de plus $1 milliard en valeur nette. La plupart des clients de son entreprise sont anonymes, mais il est spéculé que le mode de vie luxueux d'Epstein a notamment été financé par ses clients les plus riches.
Ouais, c'est comme ça qu'il a fait fortune, en fait.
Puis qu'il s'est fait connaître dans le milieu de Wall Street.
Exactement. Parce que, selon ce que je disais, même s'il n'a pas fini son université, c'est un genre de génie en mathématiques. Il est très, très bon. Et c'est pour ça qu'il a quand même développé une bonne expertise pour bien investir et être rentable. Mais on le sait, les traders, ils font de l'argent sur l'argent que tu leur fais faire. Donc, plus tes clients sont riches, plus tu places d'argent, plus tu fais d'argent.
Plus tu gères des gros portefeuilles, plus tu ramasses des commissions.
Oui, exact.
En 1996, Epstein rebaptise son entreprise The Financial Trust Company, donc une société de fiducie financière, et il la délocalise sur l'île de St. Thomas, qui est un paradis fiscal, dans les îles Vierges américaines, où il habitait avant de se faire arrêter.
Oui.
En 2000, quelques années plus tard, il a créé une fondation qu'il baptise Jeffrey Epstein Six Foundation, qui est un fonds de recherche destiné à financer des activités dans certains domaines de sciences et de l'éducation. Par exemple, en 2003, il a établi un programme d'études de la dynamique évolutive à l'échelle de la biologie moléculaire à l'Université de Harvard. C'est un long titre, ça. En offrant $30 millions à l'université. Il a toujours désiré financer de la recherche scientifique qui est croisée avec les mathématiques pour tenter de vaincre le cancer, le virus de l'immunodéficience humaine et d'autres virus. Donc, c'était un peu son cheval de bataille du côté philanthropie.
Exact.
La fondation Jeffrey Epstein Six a également financé la recherche en génétique menant à des progrès dans des domaines tels que la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le cancer des ovaires, le cancer du sein, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Epstein a donné des fonds aussi à la Société américaine du cancer pour des projets technologiques sur la CCT, un test sanguin visant à détecter des mutations génétiques et la recherche de médicaments inhibiteurs du cancer. Sa fondation soutient aussi la recherche sur l'intelligence artificielle, donc impliqué dans plusieurs sphères.
Oui, entre autres, justement, sur l'intelligence artificielle, il est impliqué dans le MIT et il donnait beaucoup, beaucoup d'argent à chaque année. Et quand ce scandale-là est sorti, ça a mis beaucoup, beaucoup de monde un peu dans l'embarras au niveau du MIT et toutes les gens qui faisaient affaire avec lui. Parce que c'est ça qui est particulier, c'est que c'est pas parce que tu faisais affaire avec Epstein dans la vie que t'es toi-même un pédophile. T'sais, faut pas oublier ça, mais indirectement, tout le monde faisait ce croisement-là et le MIT ont été obligés de refuser les futurs investissements et tout ça, et ça leur a fait mal paraître.
Et c'est justement avec toute cette richesse-là qui en est venu à s'acheter une immense maison à Manhattan. Oui. Je crois que c'est une ancienne maison d'Alan Greenberg ou quelque chose
oui,
comme
exactement.
Ça.
Oui, exactement. Ben, c'est un autre
financier.
Oui, un autre financier, entre autres, un des fondateurs de Acrombie, là, la marque de vêtements.
Abercrombie.
Abercrombie, exactement. Que lui a acheté l'école privée, il l'a transformé en un énorme manoir à Manhattan. C'est à cause de ça, c'est devenu la plus grosse maison privée de Manhattan.
Oui, 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 oui. Et c'est avec cette fortune-là aussi qu'il en est venu à s'acheter une île et tout ça. Là. Il est devenu sa croissance dans le milieu financier de Manhattan a été quand même assez rapide, là, je crois.
Oui, oui, quelques années. Malgré que c'est assez bizarre, hein, parce que justement, souvent, quand cette histoire-là est sortie, on l'appelait le milliardaire.
Mm-hmm.
Et au fil du temps, plus ça avançait, plus on calculait ses actifs et ses avoirs, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas un milliardaire, c'est plus un multimillionnaire là, au-dessus de 500 millions de valeur, mais c'est pas un milliardaire, malgré que il y a aussi des rumeurs qu'il y a beaucoup d'argent qui est peut-être caché ailleurs, qu'on n'a aucune idée qui existe actuellement.
Et c'est peu à peu aussi que son goût pour les jeunes filles va évoluer. Donc, c'est là qu'il va commencer à demander des massages dans sa maison privée par des prostituées au départ. Mais tranquillement, ces filles-là vont devenir un peu des employés de Epstein. Oui. Là, ils vont être logés dans ces différentes maisons. Et justement, en y arrivant, là, comment ils recrutaient toutes ces victimes-là?
Son arrestation, justement, elle a fait apparaître au grand jour là, ce réseau tentaculaire d'adolescentes vulnérables. Hein. On s'entend, toutes ces filles-là qui tombent dans ce filet-là, ils ont toujours une certaine vulnérabilité, puis il a toujours été capable d'aller les chercher comme ça pour satisfaire son appétit sexuel. Là. Et on disait aussi que c'est un excellent maître de la manipulation. Il faisait peur aux filles, étant donné son pouvoir pour une jeune fille de 14-15 ans.
Ben oui.
Tu peux la menacer facilement là, avec tout ce que tu as. Donald Trump le décrit en 2002, Epstein, parce qu'on a souvent fait des liens avec Donald Trump, mais lui, c'est toujours rangé du fait que c'était pas vraiment son ami. Puis il disait justement à propos des goûts de Epstein, il disait « on the younger side ». C'était plus quelqu'un qui préférait les plus jeunes. Puis ça remonte à 2002, là, donc c'est assez loin. Je reviens à Epstein. À cette époque, le riche et brillant financier est encore fréquenté par des célébrités et des gens du milieu politique. Là. Dans le début des années 2000, il n'y avait pas encore de scandale. Puis il se déroulait vraiment, disons, des partos ou des trucs pas très, très glamour dans la plupart de ses maisons, soit à Palm Beach ou à New York. Là. Il y a des dizaines de jeunes filles, certaines qui étaient âgées de 14 ans seulement, et succédaient là, dans la salle de massage de Epstein, qui avait fait aménager sur mesure avec des jouets sexuels à profusion. Lui, là, il avait besoin de pour ses propres besoins, là, je parle même pas pour les besoins de ses amis, il avait besoin d'au moins 3 filles différentes par jour. Puis il avait embauché une armée de recruteuses, souvent à peine plus âgées que les filles, les cibles qui essayaient d'aller chercher. Puis ces cibles-là, on le sait souvent, on utilise des filles, hein, ils utilisent des filles pour aller recruter des filles parce que c'est fait plus en douceur. Puis ces recruteuses-là le présentaient Epstein comme quelqu'un de bien, de généreux, qui pouvait les aider à s'en sortir ou même devenir célèbre. Le même fonctionnement qu'un pimp, là, finalement.
Ben oui. Puis ça, c'est assez frappant. Je fais le parallèle avec R. Kelly. J'en ai parlé un peu dans l'intro. Lui aussi, ces deux gars-là, en fait, avaient un flot continu de jeunes filles, tu sais.
Ouais.
Dans leur maison, il y en avait plein dans plusieurs pièces fermées. Puis ça demande du temps à gérer ça.
Ben oui.
Tu sais, en fait, cet homme-là est un financier, tu sais, qui travaille sur Wall Street. C'est des longues journées de travail, quand même. Bon, j'imagine peut-être vers la fin, il travaillait un petit peu moins.
Ouais.
vivait sur ses richesses, mais c'est de la gestion. Puis ces gens-là, puis c'est pareil comme R. Kelly, ce gars-là devait enregistrer des disques, faire des tournées.
Ben oui.
Comment il peut maintenir un réseau de jeunes filles de 14 ans dans sa maison? Ça y prend de l'aide. Donc, il y a tout un système qui était élaboré autour de Epstein pour justement recruter des filles, mais les gérer aussi. Ils doivent, quelque part, manger, ils doivent vivre. Ils ont des besoins primaires, puis il faut quelqu'un qui les gère puis qui les garde dans le secret aussi.
Oui, exactement.
Pour pas que ça s'ébruite. Donc, ça m'impressionne dans le mauvais sens,
oui,
là, cette gestion-là. Là.
Ah oui, parce que c'est... faut être très organisé, un peu comme on dit le crime organisé, c'est des criminels qui sont structurés, ben c'est exactement la même chose.
Mm-hmm.
Puis justement, le profil type des recrues, c'était des jeunes filles de milieux défavorisés. Une fois enrôlées, les jeunes filles entraient dans le petit livre noir, le petit black book que je vous parlais tout à l'heure, qui comptait plus de 100 noms de jeunes filles. Mais je lisais dans une autre source, là, avec tous les documents, là, ça va jusqu'à des milliers de noms de jeunes filles au fil du temps, là, qui ont été accumulés. Par exemple, une de ses victimes, là, Jennifer Arroaz, qu'on vous a parlé tout à l'heure, là, qui avait 14 ans à l'époque, elle a été recrutée à la sortie de son école. Puis c'était une école qui était spécialisée pour développer le côté artistique. Donc, cette école était située à deux pas de la maison d'Epstein à Manhattan. L'argument de la recruteuse, il pouvait lui donner un coup de pouce à sa carrière dans le monde du spectacle.
Ah,
tu sais,
oui.
À 14 ans, là, tu rêves déjà d'être une star. C'est facile de tomber dans ce genre de piège-là. Jennifer, elle s'est fait violer, comme on vous a dit, par Epstein, mais elle avait peur de lui. Elle avait peur qu'il la fasse tuer ou même enlever. Fait que c'est pour ça qu'elle est restée si longtemps sous son crochet.
Ben oui, ils ont peur, là. C'est non seulement un agresseur, mais c'est un peu leur provider, là. C'est lui qui la fait vivre une fois que t'es embarqué là-dedans, là. Donc, ça doit être très difficile de s'en défaire.
Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, il leur donne beaucoup d'argent, il leur donne des cadeaux. C'était tout le temps $200-$300, de l'alcool, de la drogue. Donc, les filles, c'est facile de tomber. C'est vraiment de la prostitution, mais à un niveau plus privé, là, sous le radar un peu du grand public. Justement, là, dans la mire des autorités, parce que comme tu disais, Émile, il faut du monde pour gérer ça, là. Il y a deux personnes clés qui ont été identifiées par les autorités américaines pour le recrutement des filles en particulier.
Et on va en parler de ces deux personnes-là. La justice américaine s'intéresse notamment là, à l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui est accusée par plusieurs victimes présumées d'avoir joué un rôle déterminant dans l'organisation du réseau d'exploitation de mineurs. Ghislaine Maxwell est dépeinte comme la maquerelle, en fait, la femme proxénète qui alimentait le réseau de prostitution. C'est dur à croire que cet homme-là avait une conjointe.
Oui. Puis conjointe, tu vas voir, là, conjointe très impliquée.
Oui. Le 5 novembre 1991, on remonte dans le temps, là. Son père, à Ghislaine, Robert Maxwell, est un magnat là, de la presse britannique, a été retrouvé mort près de son yacht là, qui s'appelait The Lady Ghislaine au large des îles Canaries dans des circonstances troubles. On ignore si c'est un suicide ou un meurtre.
Ouais, ben justement, Ghislaine, j'ai relu des vieux articles et elle est convaincue que son père s'est fait tuer, mais la version officielle, c'est qu'il se serait suicidé.
C'est à partir de ce moment-là que Ghislaine Maxwell part s'installer à New York et qu'elle fréquente Jeffrey Epstein. À 57 ans, elle apparaît comme la principale complice du financier qui a bâti un sordide réseau de prostitution pour assouvir ses appétits sexuels. Le problème, cette Ghislaine-là, elle reste introuvable.
Ouais.
Plusieurs victimes ont intenté des actions en justice contre elle, l'accusant même d'avoir participé aux abus. Jennifer Arroaz, là, qui avait 15 ans, dont on vous a parlé en 2002, quant à elle, a été violée dans l'appartement luxueux de Epstein près de Central Park. Elle a porté plainte contre les héritiers du financier, mais aussi contre Ghislaine Maxwell et trois autres recruteuses. Elle a profité d'une nouvelle loi new-yorkaise entrée en vigueur récemment qui permet aux victimes de crimes sexuels de porter plainte au civil, peu importe la date à laquelle les méfaits ont été commis.
Oui, c'est grâce à cette loi-là hein, que, entre autres, le cas de Epstein a été de plus en plus mis au grand jour parce que des plaintes au civil, là, même s'il est mort actuellement, là, il y en a une tonne de victimes qui poursuivent la succession de Epstein. Puis on va vous en parler plus tard parce que c'est pas si simple.
Non.
Puis Epstein a fait un genre de coup de cochon avant de mourir. Mais je trouve ça bien quand même que je crois pas que c'est la même chose au Québec. Je crois pas que tu peux poursuivre au civil quelqu'un pour un crime sexuel. Mais je trouve au moins que ça donne un peu de poids ou d'outils aux victimes parce que des fois, leur prédateur s'en sort malheureusement.
Dans les documents de la poursuite, on y apprend que lorsque tu es recruté par Ghislaine, l'entraînement commence tout de suite. Il s'agissait d'apprendre à faire une fellation, à être silencieuse, à être soumise et à donner à Epstein ce qu'il voulait. Une bonne partie de cette formation provenait de Ghislaine elle-même, selon une autre victime du nom de Virginia. Elle, par exemple, a été recrutée alors qu'elle travaillait à Mar-a-Lago, qui est la résidence de Donald Trump en Floride.
C'est bizarre, ça.
Oui. Et ce qu'elle va dire, elle va dire « Toute ma vie consistait à m'assurer que Ghislaine et Jeffrey étaient heureux », a-t-elle raconté. « Leur vie ne tournait qu'autour du sexe. » Mais j'imagine, quand t'en es à bâtir un système comme ça, ça a l'air d'être pas mal ce qui compte le plus pour toi.
Ben oui, avec ses 3 fois par jour au minimum. Là.
La longue déposition de Virginia Roberts figure dans les 2000 pages de documents judiciaires rendus publics la veille de la mort d'Epstein. Donc c'est assez troublant tout ça, là, ce système de recrutement. C'est carrément un réseau de prostitution privé. C'est comme une mini-entreprise qu'il avait lui-même avec Ghislaine.
Oui, avec Ghislaine. Puis vous allez voir, il y en avait même en France aussi. Il y avait vraiment un réseau tentaculaire de personnes clés qui pouvaient l'aider à... Puis ce qui est drôle, vous allez voir avec les autres personnes, mais c'est toutes des riches qui l'aidaient à gérer ça.
Mm-hmm.
C'est étrange. Moi, ça, on dirait que ça...
La preuve que la fortune financière n'a rien à voir avec l'intelligence et le bon jugement.
Et la morale.
Mais ça ne s'arrête pas là.
Andrew, ou même du français Jean-Luc Brunel, que lui est un patron de l'agence de mannequin MC2, reviennent souvent dans les documents d'enquête. Même que Jean-Luc Brunel, lui, est accusé d'être l'un des principaux financiers du réseau de prostitution. Il dirigeait, selon une des victimes, il dirigeait une sorte d'agence de mannequin. Il semblait avoir ça me dérange, là. Il semblait avoir un arrangement avec les autorités américaines pour obtenir des documents de voyage pour faire voyager les jeunes filles. Il amenait ensuite ces filles-là, qui étaient âgées entre 12 et 24 ans, aux États-Unis, à des fins sexuelles, et les remettait à ses amis, y compris Epstein.
Wow!
Il y a aussi son ami de longue date, le prince Andrew, le duc de York. Vous en avez sûrement entendu parler là, ces derniers temps, là, il y a eu beaucoup de frasques autour de ça. Eux, on a appris qu'ils ont séjourné longtemps l'un chez l'autre. Ils ont passé de nombreuses vacances ensemble, étrangement en Thaïlande. Hein. On connaît la réputation de la Thaïlande. En décembre 2010, Le prince a même été invité par Epstein pour passer plusieurs jours dans sa résidence de New York. Même ça s'est passé même quelques mois après qu'il soit sorti de prison là, pour son autre accusation. Là.
Ben
donc,
oui.
On voit que le prince Andrew, malgré qu'il se défende tout ça, là, il est extrêmement lié. Là. Il y a même une photo très, très compromettante où ce qu'on le voit avec la victime qu'on parlait tout à l'heure, Virginie, et Ghislaine, et qui est avec elle pendant qu'elle avait 14 ans, puis c'est dans les années 2002. Là. Fait qu'il y a des preuves, il a beau nier, le prince Andrew, il est lié à ça là, complètement. Justement, le prince Andrew, Jean-Luc Brunel, ils ont tous démenti toute implication, même si leur nom apparaît dans le petit carnet noir de Jeffrey Epstein. En 2015, même Jean-Luc Brunel, le Français, il a même attaqué Epstein en justice, estimant avoir perdu des millions de dollars en contrat à cause de sa réputation sulfureuse. C'est drôle, tu sais, il est lié là-dedans, mais il poursuit comme un peu se dédouaner de ça. Là, c'est un peu...
Si publiquement, il voulait tenter de se distancer de lui.
C'est ça, tu sais. C'est un bon moyen de prendre ses distances avec un ami, disons, qui est devenu assez gênant, là. C'est cette même année que Virginia Roberts porte plainte contre Ghislaine. Puis l'affaire a été réglée à l'amiable en échange d'une indemnisation au montant inconnu.
Ben oui. Ben c'est souvent, ça fait partie du chantage qu'ils font. On l'a vu dans le cas de Michael Jackson, on l'a vu dans le cas de R. Kelly aussi. Souvent, ils ont tellement peur des répercussions, étant donné que ces gens-là sont tellement puissants, que de régler à l'amiable est souvent la meilleure porte de sortie. En plus, ils ont pas besoin de revivre toutes ces toutes ces émotions là. Mais bon, on sait bien pour la justice, c'est un peu décourageant.
Non, effectivement, mais Virginia s'est bien repris là. Maintenant, c'est une des principales, je veux pas utiliser le mot vedette, mais qui est victime, qui est très mise de l'avant-plan, qui est beaucoup dans les médias et qui elle a poursuivi un peu tout le monde là. Pour ça, même ça l'a eu. Disons une entente avec Ghislaine, elle s'est pas empêchée de poursuivre la succession de Epstein, etc.
Ben oui, mais selon moi, c'est même si c'est ce qui est bien aussi, c'est il faut dénoncer à quelque part.
Ben oui.
Mais il faut en parler. Donc elle, au moins, je pense qu'elle a peut-être bien joué son jeu, c'est-à-dire qu'elle a dû accepter un gros montant qui va probablement lui permettre de vivre sa vie en autonomie financière. Par contre, elle a choisi de parler en plus. Donc ça c'est très cool. Là. Go girl.
Oui, exactement. Je pense qu'elle habite maintenant en Australie, de ce que j'ai entendu là. Donc
loin de toute cette chaleur.
Ghislaine Maxwell, elle a toujours réfuté ces accusations-là qui ont été portées contre elle. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas où ce qu'elle est, comme on vous disait. Elle est introuvable. Même ses avocats ont affirmé en 2017 ne pas savoir où ce qu'elle est. Eux, ils pensent qu'elle habite à Londres, mais sous une adresse inconnue. Parce qu'elle était très, très riche, hein, Madame Maxwell, là, on va vous en parler tout à l'heure, là, mais c'était quelqu'un de très, très riche à cause qu'elle a hérité de son père. Elle a vendu en 2016 son immeuble new-yorkais pour 15 millions de dollars et depuis, plus de traces. Elle avait déjà pris ses distances, par contre, avec Epstein depuis ses ennuis du judiciaire en 2007. Mais ça, je trouve ça bizarre parce qu'elle était quand même encore présente après, malgré tout. Mais selon moi, elle faisait peut-être un petit peu plus discrètement là, pour peut-être tenter de sauver là, parce que Ghislaine, elle, c'était la maîtresse, la sex friend, la meilleure amie, la concierge de son empire là, de luxe.
Oui, elle gérait ça là.
Ah oui, c'était la proxénète principale là, du réseau de filles là. Comme je vous disais, elle, c'est une ex-milliardaire parce que son père, lorsqu'il est mort, il lui a laissé beaucoup de dettes. Fait que t'imagines, elle est passée de milliardaire à millionnaire, mais c'est à cause des dettes de son père, mais tout son argent, c'est aussi à cause de la fortune de son père.
C'est bien ça d'avoir le luxe de pouvoir passer de milliardaire à millionnaire.
Oui, exact. Mais elle est surtout entourée de personnes influentes. Puis c'est Ghislaine Maxwell, c'est la fondatrice de Terra Mar, qui est un ONG qui œuvre pour la protection des océans. Elle avait tout en fait pour intéresser Jeffrey Epstein. C'est même elle qui l'a présenté à Bill Clinton et au prince Andrew. Donc, Ghislaine...
Elle a été manipulée, elle aussi.
Oui. Ben, de ce que je lisais, là, c'est qu'elle était tombée en amour avec Jeffrey et elle faisait tout pour lui. On dirait d'une manière un peu de pas se soucier des actions tant qu'elle lui fait plaisir, parce que supposément c'est un témoignage d'un de ses amis qui disait qu'elle espérait qu'il la demande en mariage, mais il l'a jamais fait, là.
Mais jamais je croirais qu'elle a pas un genre de syndrome de Stockholm, tu sais.
C'est sûr.
Du genre, tu sais, comment tu peux être amoureux de cet homme-là, puis en même temps recruter des filles mineures pour assouvir ses plaisirs sexuels, là.
Oui.
Il y a quelque chose, il y a eu de la manipulation, là, là-dedans, j'en suis persuadé.
Ben oui, parce que, tu sais, elle était pas avec lui pour son argent. Elle-même était pleine d'argent.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est pas, souvent on entend ça, là, mais dans ce cas-ci, c'est pas ça, là. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, où c'est une genre de dépendance affective, mais
ouais.
Jusqu'à quel point. Donc, Ghislaine, c'est quand même un témoin assez clé dans cette affaire-là. Elle a beaucoup de secrets qu'elle serait peut-être forcée de révéler. Est-ce que c'est elle qui a organisé sa mort? Je me pose quand même la question, là.
Non, c'est pas fou non plus.
À savoir, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup à perdre. Parce qu'à un moment donné, les autorités dans le monde vont la retrouver. Là. Ça se peut pas, là. Il y a eu, juste pour vous dire, il y a eu certaines personnes qui ont cru l'avoir vue à certains endroits aux États-Unis, mais elle a jamais été arrêtée. Mais actuellement, il y a un mandat d'arrestation contre elle. Là. Du moins, elle est recherchée.
On va faire un petit bond dans le temps maintenant. On va parler un peu de l'autopsie de Jeffrey Epstein. Parce que ça aussi, ça sème la controverse un peu, là. Le frère de Jeffrey Epstein a embauché chez Michael Baden, un second médecin légiste qui était aussi présent lors de l'autopsie, qui lui conteste la thèse du suicide évoquée par le médecin légiste officiel et suggère plutôt qu'il aurait été en réalité tué en prison. Et là, je le cite, il dit « Les éléments témoignent davantage d'un homicide que d'un suicide, en invoquant de multiples fractures de l'os hyoïde qui est situé au niveau du cou, qui sont très inhabituelles pour un suicide. Même par pendaison, quoi? »
Oui, ça a l'air que oui, que c'est pas nécessairement ces os-là qui se brisent. Mais c'est étrange, hein? Puis je me demandais comment ça peut être possible d'avoir une autre autopsie. Mais en fait, ils font pas deux autopsies sur le corps. C'est que tu peux avoir quelqu'un comme lui qui a assisté à l'autopsie officielle des autorités.
Pourtant, à l'issue d'un examen méticuleux selon ses termes, la responsable de l'Institut médico-légal de New York, Barbara Sampson, avait conclu qu'Epstein s'était bel et bien suicidé par pendaison dans sa cellule. Pour Michael Baden, qui était présent lors de l'autopsie à la demande du frère de Jeffrey, les fractures sont typiques d'un homicide par strangulation, donc c'est assez différent.
C'est ça.
Âgé de 85 ans, l'expert a été le responsable de l'Institut médico-légal de New York à la fin des années 70 et a pratiqué au cours de sa carrière plus de 20 000 autopsies, selon la biographie postée sur son site officiel.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un quand même d'expérience.
Oui, de réputé, exact.
Mais c'est quand même subtil, je présume, de dire... Ben, c'est soit une pendaison ou soit un meurtre par strangulation. C'est dans l'acte, c'est un peu similaire quand même.
Exact.
Donc, si c'est un meurtre, ben c'est quand même assez bien camouflé. Là.
Oui, exactement. C'est juste, c'est à se questionner comment il peut être tué dans sa cellule. T'sais.
Oui.
Il y a ça, mais c'est vrai que j'ose croire qu'une strangulation ou un drap qui te serre le cou, les points, je suis pas un expert, mais les points de pression, c'est vrai qu'ils sont quand même similaires, tu sais, mais on dirait que je sais pas qui croire entre le médecin légiste de l'État, que lui, est-ce qu'il était payé aussi pour dire, il y a tout ça, là, qui devient un peu troublant parce qu'on n'est pas capable d'avoir, t'as la version officielle puis t'as la version de l'expert. C'est totalement le contraire. Comme on vous le disait, c'était étrange, hein, que les gardiens de prison n'aient pas surveillé la cellule d'Epstein durant la nuit de son suicide.
Oui.
Les jours suivant son décès, le directeur de l'établissement de la prison a été muté et les deux gardiens de prison ont été suspendus. Trois mois après, la justice américaine a inculpé les gardiens de prison. Ils sont accusés de complot et de falsification des dossiers de prison. Parce que je vous rappelle, ils étaient sous surveillance parce qu'ils avaient déjà tenté de se suicider deux semaines avant. Et quand ils sont dans des contextes comme ça, ils passent aux heures.
Mm-hmm.
Et là, il s'est passé presque 8 heures sans qu'il y ait eu une ronde, malgré qu'ils ont inscrit le contraire dans les documents. Dans l'acte d'accusation contre les gardiens qui devaient le surveiller dans la nuit du 9 au 10 août, Tova Noel, 31 ans, et Michael Thomas, 41 ans, sont accusés de ne pas avoir fait la ronde de surveillance qu'ils devaient faire. Ils sont restés à leur bureau, ont surfé sur le net et se sont promenés dans les parties communes de leur unité. Étrange, là. Mmh. C'est pas comme s'ils étaient absents ou qu'ils ont rien fait. Ils se sont promenés ailleurs.
Ils ont comme évité.
Oui, exact. Pour dissimuler leur manquement, ils ont signé des faux certificats attestant avoir fait plusieurs rondes de comptage des prisonniers, ce qui n'était pas le cas. Aucune ronde a été effectuée entre 22h30 le 9 août et 6h30 le 10 août, l'heure à laquelle le corps de Epstein a été découvert dans sa cellule. Ils ont plaidé non coupable. Ça aussi, ça m'a comme jeté à terre. Tu sais, il y a toutes les preuves. Comment tu peux plaider non coupable à ça? On dirait que ça...
Ouais, des fois, c'est peut-être...
C'est stratégique.
Est-ce que les preuves sont toutes des preuves présentables en cours?
Ouais,
Est-ce que les preuves sont plus circonstancielles? Est-ce que les trucs auraient pu être falsifiés? L'horaire de ronde, ces choses-là?
Ouais,
ils doivent avoir leur raison, mais ça fait juste cacher encore plus de mystère.
Ah ben oui, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est louche, là. Quelques jours après sa mort, le ministre américain de la Justice, William Barr, a déploré de graves dysfonctionnements dans cette prison de Manhattan, qui est pourtant réputée pour être sécuritaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, moi je suis allé voir sur Google Street View, parce que j'étais là, crime, une prison à Manhattan,
oui.
Et où? Ben, crime est en pleine ville. Puis de l'extérieur, là, si tu le sais pas, ça a l'air d'une vieille bâtisse brune, bien sécuritaire, mais ça te dit pas que c'est une prison. Ça m'a un peu... J'ai trouvé ça étrange parce que d'habitude, on a tendance à isoler un peu les prisons. Il y en a dans les villes, là, mais un peu plus loin que des secteurs très fréquentés. Mais à Manhattan, on s'entend que l'espace, il n'y en a pas. Là.
Oui, mais d'ailleurs, c'est étrange un peu qu'il l'ait envoyé dans la prison de Manhattan, sachant que c'est un criminel avec ce profil-là. C'est quelqu'un d'extrêmement connu. On l'envoie dans une prison qui est un peu dans son quartier. Je l'aurais envoyé dans le fin fond de la campagne, tu sais, pour pas attirer les yeux malveillants ou encore pour tenter de le protéger en attente de son procès, on s'entend.
Oui, exact. Puis en plus, je disais que c'est une prison où ce que tout type de crime est commis, là. C'est pas une prison à sécurité maximale ou des choses comme ça. J'imagine que c'est un côté légal ou il doit avoir une raison là législative au fait qu'il soit enfermé, là, j'ose croire. Justement, pour revenir au ministre américain, lui mentionne que pour justifier l'erreur de la prison, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est plutôt à cause d'un manque de gardiens et que souvent ils ont à faire plusieurs heures supplémentaires et que c'est un peu pour ça qu'il aurait pas fait la ronde, mais tu sais, j'en doute pas mal là, avec toutes les preuves qu'on a en plus qui étaient sur les lieux de travail puis qui ont juste pas fait ça. Là. C'est pas juste une question de management là, que tout ça est arrivé.
Oui, tout à fait. Et même après sa mort, il y a eu d'autres poursuites, ce qui m'amène à vous parler des fameuses îles que possédait Epstein là, dans les îles Vierges américaines. Il s'agit de Little St. James et Great St. James. Pour dire un petit mot là-dessus, les îles Vierges sont sur un territoire américain, mais elles ne font pas officiellement partie des États-Unis.
Ouais.
Donc, ces îles avaient des surnoms là, comme l'île des orgies ou l'île des pédophiles, et elles sont malheureusement devenues une attraction touristique depuis sa mort.
Ben oui.
Les gens vont voir ça là, par un intérêt morbide.
Oui, exactement. Comme tout truc qui se passe maintenant, aujourd'hui. Là, on dirait que tout devient... Tout truc scandaleux devient une attraction touristique au fil du temps.
Le 16 janvier 2020, c'est récent ça, la procureure des Îles Vierges a demandé une enquête et a été en mesure de démontrer qu'il avait organisé un vaste réseau de traite d'êtres humains et d'abus sexuels de jeunes femmes et de mineurs aux Îles Vierges. Et cette femme-là a demandé la saisie des biens de Epstein qu'elle accuse d'avoir agressé sexuellement des mineurs dans l'archipel jusqu'en 2019. Donc, elle tente de faire un peu rétablir la loi sur... ces îles où tout a l'air d'être permis.
Exact.
Cette nouvelle action en justice constitue un développement important dans l'affaire, car Epstein n'avait jusqu'ici jamais été inculpé pour des faits après 2005.
Oui.
Donc, de sa première condamnation.
Oui, parce que même la nouvelle arrestation, c'est encore des vieilles histoires de 2005. Il y avait rien de récent. Il n'y avait pas de preuves récentes.
Mais cette fois-ci, le recours couvre une période allant de 2001 à 2019. Donc, les plus jeunes victimes présumées seraient âgées de 12 ans.
C'est dégueulasse.
Non, ça n'a pas de sens. Pour cacher ses activités, Epstein aurait utilisé un montage complexe impliquant une série d'entreprises et de fondations philanthropiques. Donc, il a glissé son entreprise de prostitution un peu au travers les maillons de ces entreprises déjà existantes. Dans les documents, il y avait des plans de vol à l'appui. On disait que jusqu'en 2019, Jeffrey Epstein et ses complices auraient fait acheminer aux îles Vierges des jeunes femmes et des jeunes mineurs par avion. Là. Ils auraient fait miroiter aux victimes présumées, pour l'essentiel, là, ils étaient âgés entre 12 et 17 ans, des occasions de carrière, notamment dans le mannequinat, dans le domaine du divertissement par exemple, de la télé, du spectacle, mais sans le moindre fondement. Il y a même une de ces jeunes femmes âgées de 15 ans qui aurait tenté de s'échapper de l'île de Little St. James à la nage avant d'être reprise et séquestrée par l'équipe d'Epstein.
Incroyable.
Hein? Ah, c'est dégueulasse. Elle a tenté de s'enfuir en quittant la maison, en tentant de nager dans les eaux, et ça devait pas être évident.
Ben non, tu sais même pas si tu vas t'en sortir.
Ben non, puis elle devait être dans un état de détresse. Mm-hmm. On a aucune idée.
Ce qu'elle a vécu. Là.
Oui, c'est ça. Donc, et ils l'ont réussi à la récupérer. Donc, c'est vraiment troublant.
Ils l'ont séquestré.
La procureure demande la saisie de tous les biens ayant pu servir dans son entreprise criminelle à cet homme dont la fortune personnelle aux origines mystérieuses atteindrait plus de 500 millions de dollars. Donc, ce serait la fortune d'Epstein à ce moment-là.
Exact.
Puis ça me trouble parce que on dirait qu'ils croient que parce qu'ils sont sur des îles un peu à l'écart, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il y a une justice quand même. Là. On dirait, ça me fait penser à John McAfee un peu, qui faisait ce qu'il voulait sur sa propriété au Belize.
Ben oui, c'est des gens qui se croient au-dessus des lois. Hein, mm-hmm. Lui, le prince Andrews, tous ces gens-là là, qui ont tellement d'argent puis qui a réussi à s'en sortir, Epstein, malgré tout, lors de sa première sa première arrestation. Donc, c'est ça. C'est tu dois vivre complètement sur une autre bulle. Puis c'est des gens brillants. Hein, je veux dire, dans le sens, si on enlève le côté moral, c'est des gens qui ont une intelligence assez pour structurer ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils se pensent tellement brillants, même s'ils sont que justement, ils pensent qu'ils se font jamais pogner. Mais je suis content que toutes ces poursuites-là arrivent, même s'il est mort. On dirait que ça enterre pas le dossier au complet, heureusement, pour toutes ces victimes-là.
Non, c'est ça. Ça laisse entrevoir. Bon, il va pas payer pour ces crimes-là, non. Manifestement. Mais en même temps, ça laisse entrevoir une forme de
justice.
De justice, ou du moins de rédemption pour ces pauvres victimes-là.
On va vous parler un peu aussi de son testament, OK? Parce que, vu que, comme on vous disait, il y a plusieurs actions en justice qui ont été entamées au civil, principalement par les victimes de Epstein, qui réclament des dommages et intérêts. Et parallèlement aussi, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours pour trouver d'autres complices à travers ce réseau-là. Par contre, le testament de Epstein qui a été signé à peine 2 jours avant de se donner la mort en prison place plus de 577 millions de dollars d'actifs dans un fonds d'une nouvelle fiducie qu'il venait de créer, qui s'appelle 1953, qui est son année de naissance. Le fait que ses avoirs sont dans une fiducie complique énormément la tâche et d'obtenir réparation, en fait, pour les dizaines de victimes qui le poursuivent au civil.
Ben oui.
C'est un salaud, là. Des avocats spécialisés en droit immobilier et d'autres experts affirment qu'obtenir un accès à la fiducie et procéder au partage des avoirs de Epstein ne sera pas facile et pourrait même prendre des années. Pauvre victime, là. En ayant placé sa fortune dans une fiducie, il empêche ainsi la divulgation publique de l'identité de ses bénéficiaires, qu'il s'agisse de particuliers, d'organisations ou de d'autres entités. Pour les femmes qui tentent d'obtenir réparation, le premier geste serait de convaincre le tribunal de révéler les détails de la fiducie. Ensuite, ces femmes-là devront suivre la même voie qu'elles avaient empruntée avant la création de la fiducie, soit convaincre le tribunal qu'elles ont un droit à une indemnisation en tant que victimes des crimes sexuels. C'est fou, là. Faut qu'elle travaille deux fois plus fort, esprit, pour aller chercher un peu de réconfort, disons, dans toute cette merde-là qu'elles ont vécu. Moi, ça m'a mis encore plus en maudit que 2 jours avant, il a placé tout ça dans une fiducie parce qu'il devait s'y attendre, il connaissait les lois, il y avait déjà des poursuites avant qu'il meure. C'est
presque pas nécessaire de faire ça. Tu sais, je peux bien croire qu'il veut léguer quelque chose à ses héritiers, là. Je sais même pas c'est qui.
Ben non, en fait, comme je te dis, la seule famille connue, c'est son frère.
Ben oui.
Fait que c'est...
Mais de là à compliquer le travail à ce point-là, déjà que t'as gâché la vie de tellement de monde, on s'y attendait dans le sens qu'on... C'est ce qu'on pensait qu'un homme comme ça allait faire avec son testament, hein, un crosseur du début à la fin.
Ah ben oui, tu sais, puis même je fais une parenthèse là, je disais, j'écoutais une interview d'une des victimes, puis elle disait que quand il se passait des actes sexuels avec le prince Andrew puis Epstein, là, il riait. Tu sais, il riait quand la fille elle se faisait agresser puis elle se défendait, puis il trouvait ça drôle. En tout cas, c'est assez fou. Je reviens au testament, dans le fond, à la fiducie. Le juge, si les victimes vont aussi loin dans leur poursuite, aura la tâche de déterminer le montant, bien sûr, qu'il devra obtenir et d'ordonner la réduction des montants versés aux bénéficiaires, parce que ça aussi, ça joue, qui est nommé par le défunt. Vu qu'il est mort, il peut léguer 500 millions à son frère, puis le reste pourrait servir à indemniser les victimes. Mais on sait pas, peut-être qu'il a tout donné à son frère. Donc là, il resterait rien pour les victimes. Donc, les bénéficiaires auront également l'occasion de faire valoir leur argument. Tu sais, c'est ça, là. Faudrait que, si exemple, c'est Mark, son frère, qui est le bénéficiaire, lui, il va, faut que lui aussi il autorise que de l'argent soit donné aux victimes. Mais,
ben oui.
Mais son frère a jamais, de ce que j'ai lu, là, il avait pas l'air d'être impliqué, par contre, là-dedans. En tout cas, il y a aucune mention. On dit juste que oui, il a fait faire une autopsie, un autre expert, mais il a l'air de pas n'avoir été impliqué, heureusement, dans ce réseau-là. Il y a la possibilité de s'attaquer à la succession de Epstein aux îles Vierges américaines où le testament était déposé et où il possédait là, deux îles parce que c'est sa résidence permanente légalement. Donc, il s'agit du dernier acte de manipulation du système posé par Epstein, même après son décès. Ça, je vous cite l'avocate là, Jennifer Freeman qui représente plusieurs victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient mineures. Là. L'avocat des victimes ajoute qu'elle considère que les avocats de Epstein et le personnel de la prison on fait preuve d'une grave négligence en permettant à celui-ci de signer un nouveau testament compte tenu du fait qu'il avait apparemment déjà tenté de s'enlever la vie deux semaines avant. Là. Et souvent, l'avocat dit qu'un testament, ça constitue un signe classique de suicide imminent pour un prisonnier.
Ben oui.
Ce que je trouve vrai aussi. Là. Mais en même temps, légalement, je pense qu'il avait le droit de faire ça. Là. C'est là que je suis partagé. T'sais. Est-ce que les autorités auraient pu tant que ça l'empêcher de...
Ouais.
De faire un nouveau testament, j'en doute. Les actifs de Epstein là, qui sont énumérés dans un document de plus de 20 pages, là, ils contiennent, ça m'a surpris, il y a 56 millions de dollars cash.
OK. Crime.
Cash, c'est beaucoup d'argent papier, là, ça. Mm-hmm. Ça m'a vraiment surpris. Il y a des propriétés à New York, Floride, Paris, au Nouveau-Mexique, dans les villes, les îles Vierges, des voitures, des aéronefs, des bateaux d'une valeur de 18,5 millions de dollars, des objets d'art et de collection qui vont devoir être évalués. Une autre possibilité aussi pour que les victimes puissent avoir quelque chose, c'est que le gouvernement américain réclame la confiscation civile des propriétés et des autres actifs au motif qu'elles ont servi à des fins criminelles. Fait que là, il y aura peut-être une porte de sortie. Les avocats du gouvernement devraient alors présenter des preuves solides soutenant que la thèse lors d'une procédure semblable à un procès là, pour qu'ils puissent obtenir gain de cause, les procureurs du gouvernement pourraient, comme je vous dis, saisir les propriétés, les revendre et ensuite distribuer l'argent aux victimes.
Mais là, ça peut être un processus qui est tellement lourd
c'est
et long.
Ça, là. En fait, tout ça pour vous dire que je sais même pas si les victimes vont réussir à avoir de l'argent et si elles en ont dans combien de temps.
Ben oui.
Parce que c'est lourd le processus, hein. Il a vraiment été un salaud jusqu'à la dernière seconde de sa vie.
Ben c'est clair, mais ces gens-là sont difficiles à condamner, ces gens-là, hein, parce qu'ils ont tout le temps des ramifications qui font en sorte que c'est difficile d'aller fouiller un peu dans leur jardin secret, c'est difficile ouais. d'aller fouiller dans leur actif. Faut passer par plusieurs intermédiaires. Même, je veux dire, lui parler à Jeffrey Epstein, ça devait être quasi impossible.
Ah ben oui, c'est clair.
Hein. T'sais, ils ont tout ce qu'il faut pour... Ils ont des conseillers autour d'eux, t'sais, ils ont des équipes qui les aident à commettre leur acte, là, t'sais. C'est vraiment dégueulasse, puis malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a peu d'espoir pour les victimes. J'espère qu'au moins leur réconfort viendra du fait que Epstein va pas agresser d'autres gens, en fait,
oui, ça c'est...
étant décédé. Mais à quelque part, il doit avoir encore beaucoup de frustration qui demeure, parce que à quelque part, qu'il se soit fait tuer ou qu'il se soit suicidé, Epstein, il a un peu gagné là-dessus. C'est-à-dire oui. que sa réputation a été détruite, tout ça, mais il ne paiera jamais pour ses actes. Là,
non,
ce qui est frustrant au plus haut point.
Mm-hmm. Ah oui, il paiera pas en n'étant pas emprisonné, puis il paiera pas... de manière avec de l'argent. C'est comme tu dis, s'en sort d'une certaine manière. Là. Il y a comme rien d'autre à faire. Tu sais, c'est ça qui me frustre, c'est qu'ils n'auront pas le choix de se battre jusqu'au bout. Tu sais, ces filles-là, ces victimes-là, elles doivent tellement se demander qu'est-ce qu'ils ont, tu sais, pourquoi, tu sais, pourquoi moi. Hein? Tu sais, ils doivent tellement regretter d'être tombés dans ce cercle-là
ben
infernal.
Oui.
Là, c'est tellement triste. Là.
Mais là, je pense qu'un peu d'espoir qui demeure pour les victimes, c'est de retrouver Ghislaine.
Oui.
Donc, j'ai l'impression, parce que les victimes, elles l'ont connue,
oui,
Ghislaine.
Oui, oui.
Elles ont eu affaire à elle. Puis d'après moi, ils doivent l'haïr autant que Epstein, ainsi que tout son entourage. Fait que même si Jeffrey Epstein est mort, je pense que sans doute, plein d'autres gens de son entourage qui pourraient
payer,
être poursuivis éventuellement, qui même être complices de tout ce réseau-là. Donc, il y a peut-être un peu d'espoir de ce côté-là, à savoir oui. si on retrouve Ghislaine et même les complices d'Epstein dans son organisation, peut-être que justement il y aurait moyen de retrouver un peu de justice là-dedans.
Là. Ouais, parce que c'est pas un dossier qui est terminé, hein, un peu comme tu dis, et Ghislaine, ils vont la retrouver, je suis convaincu, je peux pas croire qu'elle sera jamais retrouvée. Le Français dont on vous parlait tout à l'heure, il y a des poursuites un peu partout là. Si vous mettez à fouiller là, il a fallu qu'à un moment donné faut fermer les sujets, mais si vous mettez à fouiller là, vous allez tomber dans un genre de vortex parce que des poursuites, il y en a partout, à tous les endroits.
Ben oui.
Donc, c'est ça que je trouve bien quand même, parce que même si c'est un Américain, il a été poursuivi aux États-Unis, ben tous les pays où ce qu'il a commis des fautes, ils ont tout le droit de poursuivre aussi. Puis ça, je pense qu'ils le font pour le juste le côté justicier aussi, parce que vu qu'il est mort, ils pourraient, disons, fermer ces dossiers-là. Ouais.
Ça fait le tour un peu de la chronologie, Seb, de cette histoire troublante. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, toi, t'as plongé dans ce dossier-là?
Ah, ça a été... je suis tellement mitigé. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été tué. C'est... Avec du recul, malgré que je peux croire qu'après avoir fait tout ça, ça te tente peut-être pas de passer 45 ans de prison. Parce que c'était sûr qu'il finissait ses jours en prison. Là. Il y avait trop de preuves contre lui. Je suis convaincu. Je pense qu'il a été tué, mais ce qui me bluffe ou me mélange, c'est le testament deux jours avant. Tu sais, tu fais un testament peut-être pour te suicider, mais est-ce qu'il avait prévu se faire tuer? Je peux pas croire. Tu sais, on dirait que c'est ça que je comprends pas. Est-ce que les gardiens ont été payés pour ne pas le surveiller pour qu'il se suicide en paix, entre guillemets, là, dans le sens sans être dérangé, qu'il puisse aller au bout de la chose. Mais le fait que les gardiens ont été manipulés et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ça sorte, j'ai l'impression qu'il a peut-être été tué. Mais ce que je trouve étrange, c'est par qui a été tué, puis les caméras de sécurité de la prison, pourquoi il aurait pas capté cette personne-là? Puis je disais que ça a l'air qu'il y a eu quelques captations qui ont disparu par hasard des caméras de surveillance de la prison.
Pour ajouter au mystère.
Oui. Fait que c'est ça, fait qu'il y a tous ces éléments-là. Tu sais, il faut que tu fasses rentrer la personne dans la prison là, pour l'étouffer. Ils ont pas été captés. Fait que je suis pas capable de dire, on dirait avec tout ça, si c'est suicidé ou fait tuer, mais c'est trop louche. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a été tué, mais comment? On le sait pas, là. Parce qu'on dirait que dans toutes les théories que je lisais, c'était juste des oui-dire. Il y a personne qui est capable d'identifier clairement, là, tu sais, ou avec vraiment une preuve, tu sais, ah oui, ça serait Bill Clinton, ou ça serait Ghislaine, ou ça serait le prince Andrew. On dirait qu'ils sont tous impliqués, fait qu'on sait pas lequel pourrait avoir fait ça. Puis toi, comment tu perçois ça?
Ben d'un, l'histoire en gros, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ça me frustre, moi, tout ça, là, tous ces histoires-là qui sont sorties un peu dans la foulée de Me Too.
Ben oui.
Puis je suis convaincu, je fais le parallèle avec R. Kelly parce que lui aussi faisait du trafic sexuel, lui aussi avait une horde de jeunes filles mineures qui provenaient aussi de milieux défavorisés, qui étaient vulnérables, dont ils manipulaient en leur faisant promettre un avenir dans l'industrie du divertissement. Et ça m'écœure, ça, de voir de la jeunesse brisée, tu sais, des gens qui ont un bon potentiel, qui se retrouvent... ces gens-là étaient probablement... Ils devaient en avoir là-dedans qui étaient amoureux là, ou amoureuses de Jeffrey Epstein.
Mm-hmm. Non, ben oui, ça se peut bien.
À force de manipulation, de syndrome de Stockholm et tout ça. Donc, je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres, des gens comme ça. Puis que lui, c'était un peu la pointe de l'iceberg. J'ai l'impression que si on fouille parmi les top 500 là, des richissimes dans le monde, je suis convaincu qu'on peut en trouver d'autres histoires de même. Puis ça me trouble beaucoup que ces gens-là se pensent au-dessus des lois. Puis c'est tellement compliqué des fois, puis ils ont des moyens, hein. Je veux dire, Jeffrey Epstein a 577 millions de dollars qu'il peut consacrer à sa défense, tu sais, à la limite.
C'est beaucoup d'argent.
La justice américaine n'a même pas ce montant-là, point, tu sais, je veux dire, ou même pour le poursuivre lui.
Ben
donc,
oui,
il y a plus de moyens que la justice. Donc, c'est ça qui me choque vraiment dans tout ça, tu sais, la manipulation. Pourquoi, justement, détruire la vie de jeunes filles quand déjà t'as tout pour toi? Ça m'écœure vraiment au plus haut point. Quant à sa mort, on dirait que je m'en fous un peu, mais... Ben c'est vrai, mais si tu me poses la question, est-ce que c'est un suicide ou un meurtre, on dirait que de mon point de vue, à moi, j'ai plus l'impression que c'est un suicide bien planifié. J'ai l'impression que lui n'avait pas envie du tout d'aller témoigner en cours, que personne d'autre avait envie qu'il témoigne en cours. Donc, il y a sûrement eu énormément de pression pour que pas que ça arrive. Justement, le testament qui a été modifié 2 jours avant, d'après moi, je trouve que dans son trip narcissique, là, ça devait se terminer en suicide. Je pense pas que ce gars-là aurait pu affronter le regard des autres, le regard de toute l'Amérique braqué sur son procès. J'ai l'impression que ça aurait été trop pour lui, puis j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres gens qui avaient intérêt à ce qu'il s'en retrouve pas dans un procès hyper médiatisé comme ça. C'est ce que je crois, là. Mais en fait, ça peut être un meurtre aussi, mais j'ai plus tendance à penser qu'il avait tellement bien planifié tout son réseau de trafic qu'il a sûrement bien planifié sa mort aussi, tu sais. Puis c'est le lien avec le testament, puis la fiducie, puis tout ça, il doit avoir un autre objectif derrière. Il doit avoir quelque chose qu'on sait pas, qui est en train de se tramer avec cet argent-là.
Ah ben oui, il doit protéger des gens, en fait.
Oui, carrément.
Lui, il s'est fait prendre, il a dû accepter qu'il s'est fait prendre, en fait.
Il a dû se faire chanter, même, par d'autres richissimes aussi, là. C'est parce que lui, il devient un peu le bouc émissaire, mais je suis convaincu que possiblement d'autres gens, ben, l'avenir nous le dira, mais sont sans doute pas tous clean, là, les amis de Epstein. Là. Ils en ont peut-être, eux autres aussi, des manoirs sur des îles.
Ben oui, exact. Puis si les autorités avaient des milliers de preuves de photos et de vidéos, là, j'en ai même vu quelques-unes. Imagine toutes les gens qui ont participé à ça. C'est sûr qu'il y avait d'autres caméras, là, que d'autres personnes qui ont filmé. Comme tu dis, Epstein, peut-être que d'autres personnes avaient des preuves pour faire chanter Epstein aussi, pour mettre au grand jour d'autres scènes ou des scènes dégueux ou quoi que ce soit, là, pour justement faire taire tout ça. Là. Non, c'est vrai, je pense, avec ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que ça me fait plus penser que c'est un suicide planifié, justement, puis qu'ils ont dû s'arranger pour pas que les gardiens passent pour le laisser mourir.
Ah, ben il a sans doute tout orchestré ça lui-même. Ben oui, petit million à gardien numéro 1, un petit million à gardien numéro 2, tu peux bien perdre ta job, être suspendu.
Oui, c'est ça.
T'sais, fais juste pas ta ronde entre telle heure et telle heure. Selon moi, c'est plus simple organiser ça qu'un meurtre.
Mais ah, bon, ben oui.
Mais même si c'est un meurtre, je serais pas surpris, hein, parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui avaient des bonnes raisons de lui enlever la vie.
Non, exact.
Puis tout ça est devenu un peu un mème, là, le fameux « Epstein didn't kill himself oui. ». Cet aspect-là, en fait, si je me souviens bien, je crois que c'est né d'un ranger américain, d'un genre de garde forestier ou quelqu'un comme ça, corrigez-moi les distordus, je pense tout haut, là, mais c'est quelqu'un qui donnait une interview à la télé et il me semble qu'il parlait de mesures de survie ou quelque chose comme ça. Et à la toute fin, il a dit « By the way, Epstein didn't kill himself ». Donc, il a profité de sa courte tribune télé pour dire son opinion sur la mort d'Epstein. Et par la suite, c'est devenu un peu un running gag, là. Dans des galas, ça a été dit.
Oui, c'est ça.
Il y a des gens qui l'ont dit un peu partout lors d'apparitions publiques. On a vu apparaître ça sur des t-shirts.
Exact.
Donc, c'est devenu un peu un mème Internet, là. Donc, c'est peut-être un peu, c'est du mince réconfort, mais au moins le fait que à peu près tout Internet se moque un peu de lui, ça permet de se défouler
un peu sur
cet être monstrueux.
Exact. Il y avait un hashtag aussi, Epstein Murder, qui circulait beaucoup autour de ça. C'est ça, en fait, je suis comme mal à l'aise. Tu sais, moi, j'adore les memes, puis on dirait que je suis mal à l'aise avec le didn't kill himself. Tu sais, même si je comprends l'humour, c'est un peu de l'humour noir, tu sais, malgré tout, là, mais oui, ça l'a généré. Ce phénomène-là, je m'en souviens. On l'appliquait à toutes sortes de contextes, en fait. C'est ce qui était, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ce qui était drôle un peu, là, si on veut.
Si on peut trouver de l'humour dans cette histoire-là.
Exact.
Mais dites-nous, chers distordus, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez que Epstein s'est suicidé ou qu'il a été assassiné? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On est curieux d'en savoir plus. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous savez où nous trouver. Oui. On est sur Instagram, Distorsion Podcast. Même chose sur Facebook. On est sur YouTube aussi. On est sur Twitter, Distorsion Pod. Et bien sûr, Patreon, à patreon.com/distorsion. Vous allez trouver plein de trucs cool si vous souhaiter encourager le show. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous aujourd'hui?
Si quelqu'un vous invite sur son île privée sous prétexte qu'il fera de vous une star, écrivez-nous tout de suite.
Puis on débarque dans la minute.
Oui, monsieur.